On continue notre petite étude sur les nouvelles positions qu'on a en Jésus. C'est toujours une joie de partager la parole, puis c'est toujours excitant pour moi. J'aime entendre des versets de la Bible, ça me nourrit. C'est ça que la Bible a dit. On ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas que ce que moi je dis qui est important. C'est qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça qui fait que ça change notre vie. C'est pas les belles paroles de prédicateurs. Fait que quand vous entendez des messages, c'est important qu'il y ait des versets, parce que c'est les versets qui sont la parole de Dieu, qui est une puissance, ce qui demeure éternellement, c'est cela. Mes prêches sur Internet vont toutes s'effacer un jour. Mais personne ne peut effacer ce livre. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas été capables. 2000 ans plus tard, il est encore là, puis il est répandu presque sur toute la terre. Merci Seigneur. C'est là qu'on voit la parole de Dieu est efficace. Il n'y a rien qui disparaît que là-dedans. Ça demeure éternellement, puis en plus, tout va s'accomplir tel que c'est annoncé. C'est digne de confiance. C'est plus... Tu regardes ça, là, ça a l'air juste un livre, hein? Tu regardes la planète. Ça a l'air du solide, la planète, hein? Mais il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est plus solide que toute la matière qui a été matérialisée. Tout va disparaître, puis les paroles de Dieu demeurent éternellement. C'est ces paroles-là qui vont juger les gens à la fin des jours, ce qui est écrit là-dedans, les paroles de Jésus. C'est pour ça que Jésus, à plusieurs reprises, puis les apôtres avec, il dit, pas aller au-delà de ce qui est écrit. Puis il dit, mettez en pratique la parole. Puis il y a plein de versets qui nous encouragent à la lire, à la méditer, à l'apprendre par cœur, à mémoriser. Surtout ceux qui ont de la misère avec la lecture, mais que quelqu'un d'autre la lit. Toutes les manières sont bonnes pour l'apprendre. Il faut l'avoir. J'insère ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tu peux l'avoir dans ton intelligence, c'est pas encore assez, parce que l'intelligence passe son temps à méditer d'autres choses, puis à trouver une excuse pour mettre en pratique. Mais le cœur, quand tu as le cœur d'obéir, mais là, tu vas la mettre en pratique. C'est là qu'elle va. Puis pour qu'elle rentre là, faut qu'elle passe ici ou là, là. Il y a juste deux ouvertures. Les yeux, faut que tu la lises ou faut que tu l'entendes. Puis après ça, quand tu l'as reçu, là, il dit, garde-la, les temps sont proches. Puis de toute façon, on va tous partir un après l'autre, puis il faut être prêt. Il faut être dedans, voyez-vous, de marcher en lui. C'est beau. On va se faire enlever, mais on va où? On va mourir, mais on va tous partir un après l'autre, ou tout en même temps, ça va dépendre à quel moment. Mais on va partir, ça c'est sûr. Le sujet qu'on est en train de regarder, c'est que nous sommes, grâce au Christ, devenus des êtres ressuscités. Oui, on le sait qu'on est ressuscité, mais c'est grandiose quand tu médites avec les passages de la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous enseigne, de où ce qu'on était, puis c'était obligatoire. Il fallait absolument qu'on soit ressuscité. Savez-vous qu'il y a un problème incurable dans l'homme, et ce problème le conduit au lac de feu éternel? C'est un problème grave que tout le monde a, mais il y a peu de monde qui savent qu'ils ont ce problème-là. C'est juste quand tu viens en connaissance de cause de ce problème-là, puis que tu y crois vraiment, que tu vas commencer à chercher un moyen de pouvoir t'en sortir. Sinon, tout le monde se laisse aller bien confiant dans la vie, puis personne ne sait, ils sont toutes des brebis errantes, puis ils savent pas où ils s'en vont. Bien, il y a un problème grave dans cette vie, une maladie incurable qui est dans l'homme, puis ce problème-là les entraîne dans l'étang de feu éternel. C'est grave. Des milliards, des dizaines, je dirais peut-être une centaine de milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre, il y en a qui sont déjà morts, puis il y en a qui vont mourir, sans avoir trouvé la solution. Ah, ils peuvent se faire des belles religions, peuvent se faire des rituels, peuvent se faire des belles cérémonies. Ça sert à rien aux yeux de Dieu. L'homme est atteint d'une maladie mortelle, c'est-à-dire la mort spirituelle, qui est déjà là dans chaque individu qui vit au monde sur cette planète, puis qui vit sur cette planète. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets de 1 à 3, ça nous dit, ça parle à des chrétiens, « Vous étiez morts. » Faut pas penser qu'on est venu au monde parce qu'on était déjà dans le Saint-Esprit. Non, c'est pas... Puis qu'on existait avant, là, puis que Dieu il nous a envoyé ici, mais qu'on était déjà des sauvés, puis qu'on arrive ici déjà sauvés, puis que là, on pense que c'était déjà tout dû. Non, pas du tout, c'est pas de même, ça marche. Tout le monde est à mort parce qu'on est tous des descendants d'Adam et Ève. Ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses, mais le mot « par », ça peut être « dans vos offenses », dans vos péchés, dans lesquels on marchait autrefois, selon le train de ce monde, parce que l'ensemble de l'humanité, dans Éphésiens 2, les versets 1 à 3, l'ensemble de l'humanité s'en va dans le même chemin. On est à mort, puis on marchait autrefois selon le train de ce monde. C'est comme si l'image que ça donne, c'est que le monde en entier sont comme dans un train, puis s'en vont tous vers l'étang ardent de feu et de soufre. Ce train-là s'en va dans l'étang de feu. Puis tout le monde, nous étions de leur nombre dans le train de ce monde. Puis ça, c'est à qui guider. Ce train-là, il est conduit par le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable. La Bible a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde sont contrôlés, sont gérés, sont menés par l'esprit de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, on n'a pas de mérite quand tu es chrétien aujourd'hui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est pas des farces quand on dit des enfants de colère. Parce que autant que Dieu est amour, mais Dieu est aussi en colère. Puis il a déjà décrété qu'il y a un jour où ce que la colère de Dieu va s'abattre sur la planète. Puis là, on est en train de tout faire pour trouver le chemin de la grâce qui nous préserve de la colère à venir. Parce que Dieu est en colère, puis Dieu n'aime pas le péché. Puis il va juger le péché qui est dans le monde. Puis c'est le train de ce monde, c'est un train de péché, de marche dans les convoitises de leur chair ou dans leur pensée. Chacun suit sa propre voie. Tout le monde s'en va à faire ce qu'ils veulent. Mais c'est ça qui les conduit à suivre, en fin de compte, le prince de ce monde, plutôt que de suivre Dieu. Voyez-vous? Puis la Bible nous dit que nous, on n'a pas de mérite, on était des gens de même nature, c'est par nature, c'est naturel. Tu viens au monde comme ça, dans une nature de péché, une nature déchue, parce qu'en Adam et Ève, on a reçu la même nature qu'Adam et Ève. On aurait été à la place d'Adam et Ève, on aurait fait la même affaire, on aurait désobéi, on n'est pas meilleur, on n'est pas meilleur. Puis on était tous atteints de cette maladie mortelle qui est d'être mort spirituellement. Puis quand on parle, tu peux être debout, là, puis souriant, puis être en train de jaser avec les autres, tu passes pour être un bon vivant, puis quand Dieu le regarde, il dit c'est un mort, spirituellement parlant. Il y a une dimension spirituelle qu'il faut pas oublier, puis c'est la plus importante à tenir compte. Tu serais mieux être en vie spirituellement et en santé spirituellement que de l'être physiquement. Pourtant, tout le monde met l'accent sur la santé physique. Mais c'est pas la santé physique qui est la priorité. C'est ta santé spirituelle. Premièrement, es-tu vivant? C'est ça la question. Parce que si tu es mort spirituellement, être mort spirituellement, ça veut dire être séparé de Dieu, déconnecté, loin de Dieu. Puis la Bible, elle dit, c'est quoi qui nous éloigne de Dieu? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ça dit, on est à mort dans nos offenses et dans nos péchés. Puis tous ces péchés-là mettaient une séparation entre Dieu et nous. Nous étions tous des déconnectés de Dieu. Il nous appelle des morts spirituels ou des morts vivants. Morts spirituellement, mais vivants, des deux pieds vivants. Puis ça, là, il faut réaliser cela, que ce qu'on a reçu comme grâce est extraordinaire, parce que de où ce qu'on vient, c'était impossible d'entrer dans le ciel. Parce qu'on était, par notre nature, des ennemis de Dieu. Quand on marche dans la rébellion, puis dans la désobéissance, dans le péché, on est automatiquement ennemis de Dieu. Jacques, qui va plus loin, dit, si t'es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Fait que, ce qu'il faut savoir, c'est notre état qu'on était avant de connaître Jésus. Parce que quand tu connais Jésus, ta vie commence à changer, elle prend tout un autre tournure. La Bible parle du sort final de tous ceux qui sont morts spirituellement. Même si c'est un bon yob. Tu sais, on dit à une personne, c'est un bon yob. En réalité, là, il n'y a pas de bon yob. On est tous des diables ou on est des enfants de Dieu. On est tous des enfants du diable ou des enfants de Dieu. Tu peux être un enfant du diable qui a de l'air d'être sociablement correct, ou que tu es un gars qui vole pas, mais si tu es un enfant du diable, tu es conduit par le train de ce monde, puis tu t'en vas tout en même direction, les bons diables comme les mauvais diables. Voyez-vous l'idée? Alors regardez bien ce que dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 12 à 15. Les gens qui sont là sont appelés les morts. Les morts, c'est les gens séparés spirituellement. Dans une vision, Jean, il a vu une vision du futur, d'une chose qui va arriver. C'est pas tout de suite, mais ça va arriver. Il y a encore des choses qui doivent se produire sur cette planète avant que ça arrive. Mais même que ça arrive, ça va arriver. Pourquoi qu'on sait que ça va arriver? Parce que c'est écrit, parce que quoi? C'est écrit, c'est une prophétie du futur, puis quand Dieu dit de quoi, c'est pas un menteur. Faut pas penser comme j'entendais des gens, moi, quand je lui parlais de Jésus, puis lui dit, oh, moi, quand je vais mourir, je m'en vais dans le cimetière, ça sera fini là. Je regrette, c'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui a décidé où est-ce qu'on s'en va après, puis tu peux pas rien faire après. C'est juste avant que tu peux faire quelque chose, changer de chemin. Parce que quand tu meurs dans tes péchés, tu t'en vas avec le groupe qui s'appelle les morts. Puis ça dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est clair qu'il y a le trône de Dieu qui est là, Jésus est assis dessus, puis tout le monde va passer devant. Qu'ils le veulent, qu'ils le veuillent pas, qu'ils croyaient, qu'ils croyaient pas, ça n'a même pas rapport à leur foi. Ils n'ont même pas besoin d'y croire, puis ils vont se rendre à cet endroit-là. Parce que c'est Dieu qui décide où ce qu'ils vont les vivants, puis où ce qu'ils vont les morts. Voyez-vous? Il dit, je vis les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône, puis là, il y a des livres qui sont ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dans ce passage-là, ça nous parle tout le monde. Les morts vont ressusciter, se présenter devant Dieu, puis ils vont avoir à rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. Puis tu peux pas cacher rien à Dieu. La Bible, elle nous dit, il y a des livres qui sont ouverts, il y a le livre de vie. Fait que dans les livres, il y a le livre de la parole de Dieu qui est là, par lequel on va être jugé. Il y a le livre de vie pour savoir, t'as-tu accepté Jésus, t'es-tu sauvé? Ton nom va être inscrit là. Si t'es sauvé, t'es pas dans la liste de ceux qui attendent. On parle des morts. Dans le livre de vie, c'est les vivants qui sont écrits là. Les morts, eux autres, sont en attente de passer un par un. Puis dans d'autres livres, ça va être, chacun va être jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire, dans ces livres, il y a sûrement un disque dur assez gros pour contenir tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait de ton vivant sur cette terre. Tout est enregistré, tout est écrit dans ce livre-là, puis tu peux pas rien dire, je suis pas vrai. Non, c'est les vraies affaires qui vont être montrées, puis les gens vont être jugés selon leurs œuvres. Jésus en parle aussi même, il dit, il nous avertit à nous, tout ce que vous aurez dit dans votre chambre va être prêché sur les toits. On ne peut pas rien, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à découvert. Tout va être mis à nu devant Dieu. Tout le monde va voir tous nos défauts, nos qualités. Ouch. C'est ouch, oui, amen. Aïe, aïe, ça marche autant qu'ouch. Puis c'est grave, c'est sérieux ce que je vous dis là. Là, je vous le dis, là, mais allez consulter les 8 milliards de monde sur cette planète. Il n'y a même pas une personne sur, je dirais, 100 000 qui sait ce que je vous dis là. Puis ils s'attendent tous de rentrer dans le nirvana, dans le paradis, dans le ciel, à quelque part, là, où ça finit là. Mais c'est aucune de ces réponses s'ils sont morts spirituellement devant Dieu. Pour que nous évitions cette conséquence terrible, parce que c'est une conséquence terrible, là. T'es mort, tu meurs dans cet état-là, dans tes péchés, tu t'en vas là directement, puis par toi-même, tu peux pas l'éviter. Mais pour que nous évitions cette conséquence, le Seigneur nous a préparé une seule porte de sortie. C'est Jésus. C'est lui qui a accompli le sacrifice ultime de donner sa vie. Dieu lui-même a donné sa vie pour donner une chance à ceux qui sont morts et qui ne méritent rien. Il a décidé d'aller souffrir tout ce qu'on aurait dû souffrir pour nos péchés. On voit la scène quand Jésus se fait crucifier. Dans des films qu'on voit aujourd'hui, là, ça a de l'air terrible. Mais la souffrance de son âme, je suis sûr qu'elle est un milliard de fois plus terrible que ça. Quand Jésus a crié là à son Père, puis il se sentait abandonné dans cette épreuve-là, parce que Dieu, il fallait qu'il fasse vivre aussi d'être séparé pendant un moment. À cause de nous aussi, c'est ça qu'on avait comme conséquence de nos péchés, d'être séparé de Dieu. Jésus aussi l'a vécu, puis il s'est senti abandonné de son Père, puis il s'est senti avec tout le poids des péchés, les souffrances physiques, les souffrances morales, parce que là, il y a tout le monde l'avait abandonné, que ça dit dans la parole, puis les disciples, ils s'étaient tous sauvés, là, puis il y avait juste quelques personnes de sa famille autour, puis des soldats, puis du monde qui riait de lui, puis crachait sur lui, puis qui se moquait de lui, puis il l'avait cloué là. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde, ta compassion pour les humains qui ne méritent rien. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est fort. Le mobile de Dieu, c'est que malgré qu'on ne méritait rien, puis malgré que Dieu est en colère, Dieu a encore aussi une grosse partie de lui qui c'est l'amour. C'est à cause qu'il nous aimait qu'il a décidé d'envoyer son Fils. Puis Jésus, c'est parce qu'il nous aimait qu'il est venu donner sa vie de lui-même pour nous. Puis nous qui étions morts dans nos offenses, bien, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités. C'est fort. On était tous des déconnectés de Dieu, Puis Dieu, il nous a redonné une communion avec lui, qu'on méritait pas, mais il a fallu qu'il fasse quelque chose pour que la communion soit possible. Pour nous ressusciter, là, pour nous ramener à la vie, il a dû premièrement nous faire grâce pour tous nos péchés. Dans Colossiens 2:13, ça dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Je suis sûr qu'on ne sait même pas combien ce qu'on a fait d'offenses à Dieu, combien de péchés qu'on a fait. On a quelques-uns, mais on ne les sait pas toutes. On l'a offensé, puis pas juste une fois. Beaucoup de fois, chaque journée, juste le fait de venir au monde puis d'ignorer Dieu toute notre journée, là, on est déjà des ingrats. On mérite rien, là. On plaît pas à Dieu, ça plaît pas à Dieu. Il nous a pas créé pour qu'on vive indépendamment de lui. Il nous a créé pour qu'on vive en contact avec lui. Mais à cause du péché, à cause de notre ignorance, on ne le savait pas, on tournait en rond dans patauge dans le péché, on était tout beurré par nos péchés, ça l'empêchait Dieu de nous donner cette communion-là qu'on était supposé d'avoir avec lui. Puis il a fallu qu'il nous fasse grâce de toutes nos offenses, puis il dit, je te remets ta dette, tes péchés sont tous pardonnés, je te donne de recommencer à zéro. Je te donne cette grâce-là d'être gracié. C'est comme si on était des criminels qui ont été en prison, là, puis le juge décide de nous faire grâce, il nous laisse sortir, qu'un va-t'en librement, tu es libre. Ta peine a été payée. Ouais, mais j'ai pas payé ma peine. Non, c'est pas toi qui l'as payé. C'est Jésus qui a payé ta peine.
Amen.
Merci Seigneur de son amour qui nous a accordé de remettre notre peine, mais il a fallu que Jésus aussi fasse l'œuvre pour qu'on puisse le recevoir, puis il a fallu qu'on le saisisse par la foi. Ensuite, à cause qu'il nous a pardonné de nos péchés, puis qu'il a remis notre dette, il a fait beaucoup plus que ça, ce qui est le plus extraordinaire. Bien, c'est pas plus, mais c'est autant extraordinaire. Il nous a insufflé son souffle de vie, parce qu'on est à mort. T'as beau dire un mort, tes péchés sont pardonnés. Lui, le mort, il est mort, il s'en rend même pas compte. Mais il faut qu'il s'en rende compte, il faut qu'il devienne vivant. Puis pour devenir vivant, il faut qu'il souffle en toi le souffle de vie. Pareil comme Adam. Adam, quand il a été créé, il a ramassé la terre, il a fait le corps avec de la poussière de la terre, il a fait le corps, mais c'est un corps inerte. Puis ça dit dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Hey, qu'est-ce qui arrive? Je fais là. Là, il est là. Mais avant ça, il s'en rendait pas compte qu'il était là. C'est comme nous, comme on se rendait pas compte qu'est-ce qu'on vivait avant d'être chrétien. On vivait dans tout ce qu'on y était devant nous, on profitait de tout, on péchait à tour de bras, on désobéissait à Dieu, on déplaisait à Dieu, puis on trouvait ça drôle en plus. Puis on pouvait même se moquer de Dieu, puis de moquer des saints, des gens qui nous parlent de Jésus, se moquer de la parole de Dieu. On a peut-être été aussi pire que même peut-être comme Judas. Mais la même chose que Dieu a soufflé dans Adam, puis il a donné d'être un âme vivante, de même ceux qui sont pardonnés, parce que là, il fallait qu'ils remettent ta dette pour qu'ils puissent faire l'œuvre. Il t'a pardonné parce que tu as accepté Jésus, tu l'as reconnu comme ton sauveur, tu t'es repenti, mais là, il te pardonne. Il efface ta dette, puis après ça, il souffle dans tes narines. Le souffle du Saint-Esprit qui va faire de toi un être ressuscité. Parce que là, quand tu reçois Dieu en toi, la communion redevient un avec Dieu. Il rentre en toi. Avant, il l'était pas, tu étais déconnecté. Mais le fait qu'il t'a pardonné, puis là, il souffle en toi, il souffle de vie, tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, puis maintenant, tu es en contact avec Dieu. Dans Jean 3, 6 à 8, ça nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. À partir du moment que Dieu souffle dans tes narines, son souffle de vie, tu nais de l'Esprit. Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu es ressuscité. Tu as retrouvé ta communion avec Dieu. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Merci Seigneur. De mort que nous étions, nous sommes devenus des vivants. C'est super. Merci Seigneur. Quels sont les avantages d'être né de l'Esprit ou d'être ressuscité? Il y en a plein. Tout commence là à partir du moment que tu nais de nouveau. Puis ça, c'est automatique, hein? Le Seigneur le dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit peut-être. À partir de ce moment-là que tu l'as invoqué, il te pardonne, puis il te souffle en toi le souffle de vie. Tu nais de nouveau. Tu es un enfant de Dieu, ta nouvelle vie commence. Il faut que tout le monde passe par là. Faut que tout le monde passe par là parce que tout le monde sont morts, puis tout le monde ont besoin. Il faut que vous naissiez de nouveau si tu veux rentrer dans le royaume. C'est ça que Jésus a dit. Le fait de recevoir ce pardon nous a permis d'être amenés à Dieu. Dans 1 Pierre 3:18, ça nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voyez-vous? Afin de nous amener à Dieu. On était éloigné de Dieu, on était séparé de Dieu, mais Christ a accompli sa mission, il a accepté de souffrir pour les péchés, il a payé la dette des péchés. Maintenant, tout le monde qui le veut, qui veut être débarrassé de leurs péchés, débarrassé de la dette de leurs péchés, débarrassé de ce qui les empêche d'être en communion avec Dieu, t'as juste à aller à Jésus. Demande à Jésus de te pardonner puis de te purifier par son sang, puis il va le faire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis Jésus a dit aussi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu vas à Jésus, tu vas l'être sauvé. Dieu va te sauver, il va pardonner tes péchés, puis il va souffler en toi le souffle de vie, tu vas devenir un être ressuscité. Merci Seigneur. Cela nous permet de profiter de la communion avec Dieu, présentement et éternellement. Dans 1 Jean 1:3, ça nous dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Il est en train de nous dire, ce qu'ils ont vu, là, ce qu'ils ont entendu, ils nous l'annoncent à nous. 2000 ans plus tard, on l'entend, puis il nous dit, « Afin que vous soyez en communion avec nous. » Puis ce gars-là qui parlait, c'est l'apôtre Jean, sa communion à lui, il est en communion avec le Père et le Fils. Quand tu es pardonné de tes péchés et que Dieu entre dans ta vie, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Tu commences à profiter de la communion avec Dieu. Être en communion, c'est être en contact, d'être faire qu'un avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont en toi, puis tu vis la gloire de Dieu. Il y a un autre verset qui disait, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais là, c'est le contraire. À cause que tu étais à Jésus, tu viens de commencer à profiter de sa communion, de sa gloire, de toutes ses bénédictions, de ses interventions, de tout ce qu'il se propose de faire dans ta vie, un changement complet qu'il veut faire. Par la suite de notre contact, là, qui nous donne la communion avec son esprit, là, parce qu'on vient d'être, il a soufflé en nous son esprit. Ça nous permet d'être puissamment fortifiés par son esprit. Il faut comprendre qu'on a besoin de ça. La nouvelle naissance, c'est le commencement du chemin. Là, après ça, tu as besoin d'être équipé, tu as besoin d'être fortifié, parce que tu as besoin de persévérer. Puis aussi, tu as besoin de ce que Dieu va faire en toi pour faire de toi un témoin. Tu veux pas marcher dans cette vie encore avec les mêmes forces, avec les seules forces que tu avais auparavant. Sinon, tu vas faire exactement ce que tu faisais auparavant. Si tu veux être changé, faut que tu y ailles à Jésus, il te pardonne, puis là, il te donne son esprit. Puis cette communion-là, de ce qui va sortir de cette communion-là, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit nécessaire pour pouvoir avancer dans ta vie chrétienne, puis de persévérer jusqu'à la fin. Ça nous dit dans Éphésiens 3:16 que Paul y priait pour ça, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On a besoin d'être, personnellement, chacun de nous, on a besoin d'être puissamment fortifié. On veut-tu se contenter de quelques gouttes? Pas du tout. On veut tout ce qu'il y a. Puis Seigneur, il dit qu'il priait pour ça. Faut prier ça. Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Rends-nous efficaces. Conduis-nous, délivre-nous quand il y a des choses qui sont pas de Dieu dans notre vie. Transforme-nous. Rajoute les choses qui me manquent. Fait qu'on a besoin de sa puissance, sinon on va rester comme qu'on était. Mais sa puissance est dans son plan. Il veut nous transformer puis nous amener à être comme Jésus. Amen. Merci Seigneur. On a besoin d'être puissamment fortifié, puis il ne faut pas se lasser de demander cela, d'être rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est écrit dans la Bible, puis on le voit dans des exemples bibliques où ce que les disciples, ils commençaient à craindre même d'évangéliser, puis ils sont mis à prier, puis ça dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à prêcher la parole avec assurance. Puis dans d'autres moments, tu vois, Paul rempli du Saint-Esprit, puis là, il parle, puis il dit des choses, puis les affaires s'accomplissent comme c'était dit. Il y a d'autres places, c'est Pierre. En tout cas, même Jésus était rempli du Saint-Esprit pour faire ce qu'il avait à faire. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit, puis il faut la demander à tous les jours. On a besoin de cette puissance-là si on veut se rendre jusqu'au bout. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Veillez et priez afin d'avoir la force pour tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons être en veiller puis prier, avoir les yeux ouverts là, spirituellement parlant, puis pas se laisser embarquer dans rien qui n'est pas de Dieu, puis de persévérer dans la prière pour avoir de la force, parce qu'on a besoin de la force du Seigneur pour pouvoir passer. Puis je vais en parler un peu plus dans un autre message que Dieu nous demande. D'être puissant.
Amen.
Les êtres ressuscités, les gens qui sont nés de Dieu, là, ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils sont guidés par le Saint-Esprit à offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte, là, c'est notre être tout entier qu'on donne au service du Seigneur. Dans Romains 12:1, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Faut pas se contenter juste d'un culte de louange. Oui, on peut offrir un sacrifice de louange. Oui, c'est agréable à Dieu, mais il veut plus que juste les louanges de notre bouche. Il veut notre être tout entier. Faut lui remettre notre vie. Faut être prêt quand tu acceptes Jésus à renoncer à toi-même, prendre ta croix et suivre Jésus. En réalité, tu t'offres sur l'autel, tu te couches sur l'autel, Seigneur, je me donne comme un sacrifice. Puis lui, il va dire, c'est parfait, c'est ça que j'attendais. Là, il t'utilise, il te transforme. Puis là, partout ce que tu passes, la gloire de Dieu se manifeste. Sa puissance se manifeste. La parole de Dieu est annoncée. Il va y avoir des gens sauvés. Il y a des gens qui vont grandir spirituellement. Dieu va agir à travers de toi parce que tu t'es donné à lui. Puis c'est un culte raisonnable.
Amen.
Balance ça, là. Ça a coûté la vie à Jésus pour que tu puisses y aller. Toi ici, il faut que tu donnes la sienne. C'est juste raisonnable. C'est kiff-kiff. Amen. Il y en a-tu d'autres qui sont prêtes?
Oui.
Amen. Gloire à Dieu. Et à la fin de notre vie, le fait d'être ressuscité spirituellement par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit rendra la vie à votre corps mortel. Ça, c'est dit dans Romains 8, 11. Ça nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en vous. Le Saint-Esprit qui habite en Jésus, il a ressuscité Jésus. Fait que si le Saint-Esprit qui habite en Jésus, il habite en moi, mais dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voyez-vous que c'est important d'être ressuscité? Tu veux être un vivant dans l'éternité, il faut que tu aies le Saint-Esprit encore après toi, en toi. Faut que tu sois en, tu gardes ta communion avec le Saint-Esprit. Faut pas que tu t'éloignes, puis tu te perdes. Faut que tu restes dans la foi, puis tu marches pour rester en lui. Parce qu'il y a un verset qui dit, ils font profession de connaître Dieu, ils font profession d'aimer Dieu ou d'avoir la foi en Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Mais tu peux pas marcher de même. Faut que tu marches comme c'est écrit. T'as pas le choix. Tu peux pas faire assemblant pour faire porter un masque de chrétien le dimanche, puis t'en retourner dans la semaine, puis vivre en païen, comme tu étais dans ta vie avant de commencer à connaître le Seigneur. Faut que tu sois vrai. Puis pour être vrai, il y a une seule manière pour être vrai. Faut que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Puis il faut pas que tu le mettes dans ton portefeuille en arrière. Faut que tu en sois rempli, revêtu tous les jours. Pour ça, il faut prier pour cela tous les jours, d'être rempli, revêtu. Tu peux pas y aller avec ta force pour vivre la vie chrétienne. Si tu arrêtes de prier et tu ne cherches pas la face de Dieu puis tu marches avec ta force charnelle, tu vas retomber, c'est pas long, dans ton pattern que tu avais avant. Faut garder ce contact-là. Puis si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais ce même Esprit-là, il va rendre la vie. Déjà sur cette terre, tu vas marcher en vivant, tu vas faire des fruits d'un vivant, en plus, tu vas être vivant pour l'éternité parce qu'il va te ressusciter, il va ressusciter ton corps. Amen, il va te donner un corps éternel, puis ça va être grandiose, parce qu'on fera pas partie de la gang des morts qui tiennent devant le trône. Nous, on va être sur le bord de Dieu qui juge. Ça sera une autre étude un peu plus tard, si Dieu le veut. Je suis sûr qu'il veut, mais... Quelle est notre responsabilité en tant que qu'être, un être, on est des êtres ressuscités. On a une responsabilité, là, puis il y a des encouragements que la Bible nous dit. Mais la Bible, elle nous dit, si nous sommes des ressuscités, recherchons les choses d'en haut. Dans Colossiens 3, 1, 2, ça dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ben, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles que sur la terre. » Savez-vous, le sens du mot affection, là, c'est d'être attaché. Avoir un attachement, une affection, là, c'est pas une infection, c'est une affection. Une affection, tu as des effets d'amour, tu es attaché, tu es intéressé, tu es à la poursuite, tu veux garder, tu veux. Puis là, si ça dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, ça veut dire ton intérêt principal, la première intérêt que tu dois avoir dans ton cœur, c'est pas les choses d'ici-bas, c'est d'être attaché aux choses d'en haut. Christ est assis là, tu dis t'es ressuscité avec Christ, puis Christ est assis là. Si t'es ressuscité, mais tu fais t'es avec Christ, donc ton intérêt doit être sur le Christ qui est en haut, et s'intéresser aussi à ce que lui pense, puis sa manière de voir les choses, puis de faire aussi son plan, ce qui s'attend de nous. Amen. Si il dit, bon, vous le relayez, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est là. Si tu intéresses Jésus, continue à regarder en haut. Là. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qu'il y a sur la terre. Puis ça, il y a un autre verset qui dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, ceux qui recherchent s'ils vivent selon la chair, ils ont de l'affection pour les choses de la terre, ils vont mourir. Puis si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. C'est pas juste celui qui l'a reçu puis continue à marcher selon la chair. Parce que ceux qui marchent que selon la chair, pratiquent toutes sortes de péchés, puis ils se sentent bien là-dedans, puis ça ne les dérange pas. Ils ont accepté Jésus, mais leur vie, c'est dans la chair. Les plaisirs de ce monde, les convoitises, les désirs, les mauvais désirs, la cupidité, le péché, de toutes les formes. Ils se pataugent là-dedans, puis ils se sentent à l'aise, mais ils ne rentrent pas. Si tu veux rentrer, faut suivre Jésus dans son chemin à lui, t'attacher à lui, puis t'attacher à lui, tu vas t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles que sur la terre. Oui, tu peux aller manger au McDonald's de temps en temps, c'est pas un péché, mais c'est pas ton tout, là, c'est pas ton seul but sur la terre. Dieu permet qu'on profite des petites affaires sur cette terre, mais pas que cela, voyez-vous? Faut penser à l'œuvre de Dieu. Faut vivre en fonction de l'œuvre de Dieu. Si je me suis offert en sacrifice, je me suis donné à lui dans le but. Sers-toi de moi, Seigneur. Guide-moi dans ton plan. Je sais qu'il y a de l'ouvrage à faire. Puis je suis disponible. Je suis ton serviteur. Si t'en veux plus, je suis ton esclave. Parce que ça le dit. C'est lui qui, l'esclave va être encore plus haut que le serviteur. Une autre partie dans notre responsabilité là, qui nous dit « Offrons-nous à Dieu comme des vivants revenus de la mort, afin de vivre dans la justice. » Dans Romains 6, 13, ça dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. » Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Hey, qu'est-ce qu'on a à perdre? Avant d'être chrétien, on était mort, on était déjà perdu. On avait déjà tout perdu. Là, Jésus t'offre la vie. Tu la prends. Hey, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à vivre comme qu'on était avant? Dans la désobéissance, dans la rébellion, dans le péché? T'es à mort là-dedans. Tu peux pas repenser à retourner là-dedans. Si Dieu t'offre la vie, mais te donne aussi le mode d'emploi pour rester dans la vie, garde ce chemin-là, attache-toi à cela, donne-toi tout entier pour cela. T'es déjà perdant. Puis si tu lâches tout ça, tu vas retourner perdant. Accroche-toi à cela, persévère dans la foi, lâche pas le Seigneur. Tu l'as déjà dans les mains, le salut. Tu l'as déjà dans les mains. Tu te feras pas voler, tu veux pas te faire voler. Tu l'as, c'est à toi. Lâche-les pas. Un jour, les ressuscités vivront éternellement dans la gloire avec leur Seigneur. Dans Romains 5, 17, ça nous le dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, » on parle d'Adam qui a offensé Dieu, puis la mort a régné sur toute l'humanité à cause d'Adam, « et dit à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, d'être justifiés, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Voyez-vous, Adam, ce qui a emmené sa condamnation dans l'humanité entière, puis Jésus est venu pour nous amener l'abondance de la grâce, parce que c'est pas juste d'être pardonné, c'est que ce pardon-là se multiplie, parce que Dieu continue à nous faire grâce. Chaque fois qu'on demande pardon, il nous pardonne tout le temps. La grâce, c'est pas juste quand j'ai accepté Jésus en l'an 1980. Toute ma vie, je marche sous la grâce. Si je garde la foi en Jésus, il me pardonne. Il me purifie. Mais garder la foi en Jésus, là, je vous l'explique rapidement, c'est pas juste un titre, c'est de demeurer en lui, dans la foi qui sauve. C'est pas juste un titre, c'est un mode de vie. C'est démontré par tes œuvres, ta foi, pour avoir la foi qui sauve. C'est une vie démontrée par des œuvres, que Jacques nous explique. Puis si tu marches dans l'abondance de grâce et de justice que Dieu te donne en Jésus, hein, mais il dit, un jour, on va régner dans la vie. Ça, bon, on n'est pas encore rendu dans le règne, là, on est encore dans le temps de servir. Le règne vient après. On verra ça après, qu'est-ce qu'on aura à faire comme roi puis seigneur. Mais il fait de nous des rois et des seigneurs. Puis on va régner avec le Christ pendant les 1000 ans sur cette terre ici. Puis après ça, on va régner pour toute l'éternité. Il y a des versets pour cela. Mais on a tout à gagner de rester attaché à Jésus. Tout est là. Soyons sérieux. Sanctifions-nous. Marchons avec le Seigneur. Restons fermes puis fidèles à ce qui est écrit. S'il y a des choses qui marchent pas, puis on s'en rend compte, demandons pardon à Dieu puis demandons d'être renouvelés. Faut tout que notre vie soit continuellement gardée en lui. Faut pas se laisser aller. C'est même si ça ne nous tente plus, si on a de la misère, demandons de l'aide à d'autres pour nous aider à prier, pour être renouvelés, qu'on soit encore dans l'équipe, tu sais, de rester là. Parce qu'il y en a qui ils se revirent de bord. C'est comme le fait de monter sur une échelle pour pouvoir se rendre sur le top de la maison. Puis il y en a qui accotent l'échelle, puis ils montent l'échelle pour réaliser au bout que il s'était trompé de maison. Fait que là, si t'es trompé de ta maison, c'est que t'es pas monté sur le toit qu'il fallait. C'est comme si t'as pas suivi le bon chemin pour te rendre. Il y en a d'autres qui ont monté sur la bonne maison, ils ont monté à moitié, puis là, à un moment donné, ils sont tannés, ils ont décidé de redescendre. Mais ils rentreront pas, eux autres non plus, même si t'as monté un bout. C'est ceux qui vont être là, debout, devant le Fils de l'homme, quand il va venir nous chercher. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie de nous avoir ressuscités. Je te remercie de l'œuvre de Jésus qui nous permet de profiter de l'abondance de tes grâces puis du don de la justice. Merci de nous avoir justifiés à cause du sang de Jésus. Seigneur, garde-nous dans cette foi ferme, dans cette foi qui va nous faire marcher en dignité d'être ressuscité. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous utilise, on s'offre à toi en sacrifice, guide-nous et conduis-nous dans ce que tu veux de nous. On est disponible, dirige-nous, on remet nos ventres à tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.